con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada.
Cette fois, c'est bien fini. Il nous faut nous résoudre. La vie ici n'est plus vivable. Être sans rien, sans droit, encore, nous en avons pris l'habitude. Mais désormais, nos vies mêmes sont en danger. C'est moi qui vous mets tous en danger. Je me suis engagé, j'ai voulu résister, faire valoir, mais nous sommes si petits. On sait ce qu'il advient des petits qui protestent, deviennent vite disparus. Il faut choisir, demeurer ici et courber les chines, baisser les yeux, renier tout ce que depuis toujours nous sommes. Ou bien rester ainsi, mais ailleurs, passer la frontière et s'établir loin d'ici, réfugiés. D'autres comme nous à poursuivre à distance. Nous ne serons pas les premiers ni les derniers à vivre là-bas sans oublier. Au contraire, vivre là-bas où on peut se faire entendre, raconter, rendre compte, éteindre enfin le silence imposé. Dans l'espoir incertain de revenir un jour pour cette fois-ci, ici, exister. Emmanuel Darley, Le Bonheur, chez Actes Sud.
Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes au théâtre Joliette Minotri, au sein de la bibliothèque de théâtre contemporain, où tu es invité pour cet après-midi, de rencontres, de lectures, d'ateliers. On parlera un petit peu de la manière dont ça s'est déroulé aujourd'hui pour toi et pour les gens qui t'ont accompagné. On va parler de tout ça, mais aussi du cadre global dans lequel cette journée se déroule, à savoir ta résidence d'écriture actuelle à La Marelle pour ce projet que tu as mené, que tu mènes toujours là jusqu'à la fin du mois de juin 2014. On va évoquer l'ensemble de tes ouvrages, ton travail d'écriture aussi bien du côté du roman que du côté du théâtre. Et puisque on est au théâtre, je vais commencer avec ça, mais je voudrais dire un petit mot peut-être avant sur ton parcours assez rapide, puisque évidemment on ne va pas pouvoir tout dire. Tu es né en 1963 à Paris, tu as passé les premières années au Togo, en Lorraine, tu es revenu à Paris pour poursuivre tes études, enfin les commencer à Paris, de cinéma, et puis tu as travaillé plusieurs années en librairie, c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Tu as pas mal voyagé, tu vas nous expliquer tout à l'heure peut-être justement sur quel territoire, sur quelle terre, souvent de conflits, tu as été. Tu publies des romans au départ avec des petits garçons, c'est sorti chez POL. Il y a eu aussi Un gâchis, Un des malheurs chez Verdier, Le Bonheur chez Actes Sud, dont on a entendu un passage là, des ouvrages pour la jeunesse à l'école des loisirs, des ateliers d'écriture, tu en as mené beaucoup, mais c'est la découverte de l'écriture dramatique. J'aimerais bien qu'on revienne peut-être sur ce mot de découverte pour savoir si ce qui est écrit dans les biographies correspond au ressenti de l'auteur, qui te mène pour l'écriture sur des projets très différents et très nombreux depuis de nombreuses années. On peut citer de nombreuses pièces de théâtre, publiées ou non, en particulier Flexible, Hop Hop, Être Humain, Indigent, j'en ai plusieurs avec moi ici, Le Mardi à Monoprix, qui a eu un certain succès puisque avec Jean-Claude Dreyfus la pièce a beaucoup tourné, Aujourd'hui Martine, C'était mieux avant, je l'ai déjà dit, Qui va là, Pas bouger, et d'autres qui ont été mises en scène, je crois toutes ou presque toutes, ou en cours, pratiquement toutes, hein, remarquées par la critique. Et puisque donc nous sommes dans un théâtre, je vais commencer par cette question qui me semble importante, c'est justement, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti comme ça, la découverte, un moment de l'écriture théâtrale, comment est-ce que c'est venu? Est-ce que tu fais une vraie différence entre tes premiers romans, les suivants, l'écriture dramatique, qu'est-ce qui a changé, quand, comment, pourquoi? Toutes ces questions.
Découverte, je ne sais pas si c'est le mot, enfin, si, sans doute, oui. Disons que l'écriture théâtrale, elle est venue sur des rencontres, c'est-à-dire que j'étais vraiment parti pour écrire des romans et je ne pensais pas du tout au théâtre, parce que ce n'est pas une chose que je connaissais très bien. On va dire, disons que ma formation, en gros, ma formation, elle est plutôt rock'n'roll et cinéma, au départ, avec beaucoup de lectures quand j'étais jeune, disons. Donc c'est vrai que j'ai commencé vraiment par écrire des romans, c'était ça que j'avais envie d'écrire. Et le théâtre, il est venu un peu vraiment par hasard, parce que des gens que je connaissais, soit qui écrivaient du théâtre, soit qui étaient metteurs en scène, soit des acteurs que j'ai rencontrés, m'ont incité à écrire du théâtre. On trouvait dans les premiers romans que j'ai écrits, en particulier dans Un gâchis, qu'il y avait quelque chose d'intéressant, qui sans doute serait intéressant à essayer de travailler par rapport au théâtre. Et voilà, c'est vrai que c'était pas un univers que je connaissais beaucoup, ni en tant que spectateur, ni en tant que lecteur, finalement. Donc c'est venu un peu par hasard. Les deux, trois premiers textes n'étaient pas absolument terribles. Sans doute, voilà, parce que j'ai eu besoin de prendre du temps pour comprendre ce que c'était que l'écriture théâtrale, et puis surtout pour trouver un endroit exact par rapport à ce que j'avais pu écrire avant. Et donc la première pièce que j'ai écrite, qui soit vraiment... voilà, qui soit une espèce de carrefour comme ça, d'endroit important dans mon chemin, comme ça, c'était cette pièce qui s'appelle Pas bouger, où j'ai vraiment trouvé l'endroit exact de l'écriture pour le théâtre, bien sûr, mais aussi pour les romans, parce que c'est vrai que les deux romans suivants, Un des malheurs et Le bonheur, même si je les considère vraiment comme des romans, ils sont comme ça. Je pense qu'on entend vraiment que j'écris pour le théâtre dans ces romans-là, parce qu'il n'y a pas une voix, il n'y a pas un narrateur. C'est des textes très polyphoniques avec plein de voix comme ça qui se mettent à toutes ensemble pour raconter une histoire.
Alors, cet aspect polyphonique, il me semble très important justement, mais peut-être avant la polyphonie, c'est de trouver la voix. Donc peut-être le premier jeu ou la manière dont toi tu te places, puisque c'est ça visiblement qui est important, la manière de regarder, d'être peut-être au cœur des choses en utilisant ce jeu. Ça me fait penser à ça parce que tout à l'heure, quand tu as, avec les personnes qui ont suivi l'atelier d'écriture à l'extérieur en promenade, tu leur as fait un exercice, plusieurs, mais dans un des exercices, il s'agissait, je crois que tu l'as fait d'ailleurs à chaque fois, finalement, quand j'y pense, de prendre la parole en disant je à chaque fois, en se mettant à la place du linge qui pend, d'un immeuble, d'un personnage, mais toujours en utilisant ce jeu. C'est là où toi, tu as eu besoin, un moment, de trouver aussi ta place, c'est-à-dire de bien cerner ce jeu. Qu'est-ce qui s'est passé là ?
En fait, ce qui m'intéresse vraiment dans l'écriture, c'est de faire parler des personnages, et puis c'est d'essayer de trouver une façon différente pour chacun de parler. Je pense qu'on parle tous de façon un peu différente, même si on a une langue commune. Mais je pense qu'on a tous déjà des tics de langage, des façons de parler les uns les autres. Et donc, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver au cœur même de la langue ce que raconte un personnage, ce qu'il a derrière lui, ce qu'il a à l'intérieur de lui. C'est ça qui m'intéresse beaucoup, quoi. Et en fait, ce qu'on a fait dans l'atelier cet après-midi, qui est de, comme ça, une espèce de circulation, et de regarder autour et de faire parler des choses qui, comme ça, à première vue, n'ont pas l'air de parler, quoique. Mais C'est ce qui me tient le plus à cœur dans l'écriture, c'est-à-dire souvent je pars de photographies, par exemple pour Le Bonheur, je suis parti de beaucoup de portraits comme ça de migrants, et je regarde ces gens qui souvent regardent l'objectif du photographe, et j'essaye de deviner ce qu'il peut y avoir derrière, j'essaye d'imaginer ce que ça peut être le parcours de quelqu'un, voilà, qui a traversé le désert, qui a traversé la Méditerranée pour arriver à Lampedusa ou à Gibraltar. Et j'essaie d'imaginer ce que ça peut être, les doutes, la peur, l'espoir d'un personnage, par exemple, pour ce livre-là. Mais c'est ce qui m'intéresse le plus dans l'écriture.
Pour Un des malheurs, là aussi on est sur un territoire de guerre, on verra tout à l'heure, et de la même manière, là on est à chaque fois avec un personnage à l'intérieur même du personnage et de sa manière de voir, mais comme il y a quantité de jeux, quantité de personnages, ça donne une image à la fois, à chaque fois, très ciblée, très centrée, très concentrée sur un être, et en même temps entièrement très très vaste, très polyphonique et sur un territoire très étendu.
En fait, sur ce livre-là, donc Un des malheurs, l'idée c'était vraiment... Bon, il y a quelques personnages importants qui reviennent, d'un côté comme de l'autre, puisque le livre est écrit, donc c'est le siège d'une ville, bon, l'inspiration, c'est Sarajevo. Donc l'idée, c'est vraiment de faire parler les gens à l'intérieur de la ville et les gens à l'extérieur, ceux qui subissent, on va dire, et ceux qui bombardent la ville. Et c'est vrai qu'il y a quelques personnages très importants qu'on va suivre tout au long du livre, d'un côté comme de l'autre. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des voix qui sont qui disent trois lignes, et c'est la seule chose qu'on entendra d'eux, parce que parfois, en plus, les trois lignes qu'ils disent, c'est des personnages qui sont morts ou qui sont en train de mourir, donc effectivement, ils parleront plus après. Et à tous ensemble, ils racontent une histoire, tous ensemble, ils racontent la chronologie de cette ville qui peu à peu disparaît.
Ça, c'est important, cette histoire collective, partagée, d'être à la fois sensible à la personnalité des individus et en même temps dans le mouvement général.
Oui, c'est ça qui est essentiel.
Et je repense du coup aussi à ta présence ici à Marseille, où tu réfléchis sur la ville. On viendra peut-être tout à l'heure encore dans la description de ce projet, mais le fait de s'intéresser à une ville qui est en soi un espace géographique mais aussi social et aussi humain et donc collectif et personnel, c'est aussi finalement la même préoccupation que dans
un des malheurs. Ça va dans le même sens d'essayer de choper quelque chose du mouvement d'une ville, d'une circulation, des différentes personnes qui la peuplent, de la violence, de la solitude des gens, de la violence des gens. Et puis, je pense qu'il y a toujours... je pense qu'en plus, je suis toujours très présent dans ce que j'écris, même quand je raconte un des malheurs où je ne suis pas forcément... Mais voilà, dans ce que j'ai fait depuis que je suis ici, dans ce que j'ai commencé à écrire, dans ce que j'ai commencé à réfléchir par rapport à cette ville, par rapport à cette résidence, c'est assez étrange parce qu'en fait, je me suis intéressé... ça m'a frappé tout de suite, en fait, je trouve cette ville très masculine, en tout cas les quartiers où je vais, en particulier à Noailles. Je trouve que c'est une ville où il y a beaucoup d'hommes, et puis c'est beaucoup de solitude d'hommes, et je pense que ça parle beaucoup aussi de moi. Donc j'ai une position, c'est une chose assez que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire que j'aime beaucoup circuler, regarder les gens, écouter les gens, me mettre à des endroits et essayer d'être peut-être pas comme une éponge, mais quelque chose comme ça qui enregistre des choses, enregistre des voix, des paroles. Et puis, j'aime beaucoup être comme si j'étais invisible, l'impression que personne ne me voit, ce qui, je pense, est assez faux, parce qu'un type qui ne fait rien et qui regarde les autres, je pense qu'on le voit assez vite. Mais c'est l'illusion que j'ai, en tout cas. C'est mon idée que je me fais de l'écriture, en fait, c'est d'être quelqu'un d'invisible... et puis qui prend des choses, qui chope les choses un peu et qui les retranscrit ensuite.
Alors tu parles beaucoup de mouvements aussi, tu circules beaucoup, mais en même temps, au moment où tu observes, au moment où tu écris, au moment où tu cherches à être invisible, tu es fixe au milieu d'un monde en mouvement.
Oui, c'est ce qui me passionne le plus, en fait. Mais je trouve que dans ce qu'on a entendu tout à l'heure dans les textes que les participants de l'atelier ont écrit, en fait... à ce carrefour là-bas à Roc, je trouve que on entendait bien ça, en fait. C'était aussi bien eux, là où ils étaient, à l'endroit où ils étaient, puis en même temps les choses fixes, les choses qui vont sans doute disparaître, les choses qui sortent au contraire de terre, et puis les gens qui continuent, les types qui s'arrêtent en voiture, qui ouvrent la fenêtre et qui crient leur nom. Je trouve que c'était assez juste. C'est sans doute c'est parce que c'est ce que j'écris, moi, la façon que j'ai d'écrire, et que c'est sûrement ça que j'essaye de transmettre dans un atelier d'écriture, donc c'était assez réussi.
Oui, c'est ce que tu as demandé, mais c'est aussi ton attitude peut-être qui a fait que ça a porté cette écriture-là, surtout dans ce quartier à la Joliette à Marseille, qui est, on le voit pour ceux qui connaissent le quartier ou qui le traversent, en mouvement, en construction, en destruction, en perpétuelle mobilité.
C'est le premier quartier que j'ai vraiment connu de Marseille.
Que tu as arpenté.
Voilà, parce que je suis venu il y a longtemps pour Pas bouger, qui a été joué ici. Enfin, pas ici, mais à la minoterie d'avant, quoi, disons, on va dire.
Et, même la minoterie, même les théâtres bougent de place.
Et... j'ai vraiment vu le changement de ce quartier-là, puisque je suis venu plusieurs fois pour plusieurs choses. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais très envie de répondre à ton invitation de résidence à La Marelle.
Tu as dit tout à l'heure aussi du dehors et du dedans, en parlant de un des malheurs. C'est aussi quelque chose qui me frappe dans l'écriture, c'est que c'est à la fois quelque chose de complètement immergé, très en empathie avec les personnages et en même temps un regard extérieur, mais aussi avec des gens qui bougent, qui vont de l'extérieur vers l'intérieur et inversement, ou qui sont regardés de loin de l'extérieur, y compris avec des fusils à lunettes d'ailleurs parfois. Et là, tu as aussi... participer à des ateliers d'écriture à la prison des Baumettes avec le fictif, où cette question du dehors et du dedans, elle est évidemment très, très présente. C'est quelque chose qui t'intéresse aussi.
Oui, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. C'est une très belle expérience, en fait. J'ai passé 3 jours aux Baumettes avec des gens donc, qui participent à une formation de vidéo. Et donc, j'ai fait écrire... sur le territoire, sur la circulation dans la ville, et puis aussi sur eux-mêmes, sur pareil, un peu comme j'ai fait tout à l'heure par rapport aux immeubles, mais là, c'est des vrais gens, de pouvoir dire « je suis », puis de se raconter. C'était assez beau, c'était une belle rencontre. Et puis, c'est un endroit impressionnant, et puis c'est une espèce de ville dans une ville, donc c'est des choses qui me touchent beaucoup.
Peut-être qu'on peut rester un peu sur les livres et la manière dont ils sont arrivés les uns après les autres. Cette manière peut-être de t'intéresser de plus en plus, tu viens de dire circulation, à ces questions très contemporaines de migration, de mouvement et des violences qui sont liées à ça. Le bonheur était vraiment sur cette question de la violence de la migration avec tout ce qu'on sait, des gens qui partent du Mali, qui se retrouvent sur des bateaux, qui se retrouvent à Lampedusa ou pas, parce qu'ils se noient entre-temps. Mais au fond, c'était déjà des questions abordées dans les livres précédents, et tu vas de plus en plus vers une interrogation sur ce fait.
Je pense que depuis le départ, il y a des choses qui se retrouvent dans plein de livres, que ce soit dans les romans ou dans les pièces de théâtre. Mais il y a vraiment l'idée de l'avancée, de la progression de chacun dans l'existence, que ce soit géographiquement ou intérieurement, quoi, disons. Et après, il y a une chose très importante dans tout ce que j'écris, qui est la question de l'identité, savoir qui on est. Il y a tout un travail sur les noms, sur le prénom, sur l'absence de nom aussi. Donc ça, c'est une chose qui traverse aussi beaucoup. Et après, par rapport au bonheur, c'est un livre qui a mis beaucoup de temps, que j'ai mis beaucoup d'années à écrire. Mais voilà, c'est un travail qui s'est fait vraiment à partir d'images d'actualité, en fait. Les premières images que j'ai vues, qui étaient les corps, en fait, de gens sur les plages en Espagne, au sud de l'Espagne. Voilà, j'ai gardé ça longtemps, des petites photos comme ça que j'avais trouvées dans Libération, sans doute. Et je fais assez souvent ça, quoi. J'ai des tas de photos dans plein de cartons, et je me dis, un jour, je ferai quelque chose avec ça. Donc ça ne marche pas toujours, et puisque j'aurai pas suffisamment de temps, je pense, dans toute ma vie pour... Mais voilà, celui-là, il est venu petit à petit comme ça.
Tu parles de photos. On verra peut-être aussi tout à l'heure le lien que tu peux faire dans ton travail actuel avec la photo. Mais toute cette matière, je dirais, de base, documentaire, là, quand tu circules dans Marseille, tu prends des photos, tu prends des notes. On voit bien aussi comment tu travailles. Mais tu as aussi été sur place, justement. Tu as aussi voyagé. Tu t'es aussi imprégné des lieux mêmes. Et puis même là aujourd'hui, le fait d'être en résidence, ça veut bien dire être aussi à un moment dans l'espace même du sujet d'écriture, on va dire, de cette matière que tu vas essayer de rendre dans le texte. C'est important d'être physiquement présent à un endroit.
En fait, c'est important pour les romans. C'est-à-dire que je pense que c'est là où la ligne elle se fait entre les romans et le théâtre. Sans doute pour les sujets aussi, pour les sujets que je prends qui sont d'une certaine manière, je dirais, un peu plus vaste que... pour le théâtre. Le théâtre, le travail principal, il se fait vraiment sur la langue, sur la façon de parler, sur le rythme de l'écriture, sur la musique de l'écriture. Je ne dis pas que ça ne fasse pas sur les romans, mais sur le roman, c'est vraiment un travail de documentation au départ qui fait la différence. Et c'est vrai que dans une idée comme ça géographique et dans une idée d'être au plus près d'une réalité, pour les romans, en tout cas les deux, Un des malheurs et Le bonheur, j'ai pas mal circulé. Je suis allé, donc pour Un des malheurs, je suis passé pas mal de temps à Sarajevo, après la guerre. Et pour Le bonheur, eh ben, je suis allé à Lampedusa, à Calais et au Mali pendant assez longtemps aussi. C'est toujours très étrange, en fait, ces déplacements-là. C'est-à-dire qu'on essaie d'être au cœur des choses, de voir des choses. Et puis, bah, par exemple, à Sarajevo, pour Un des malheurs, j'ai passé un mois là-bas. J'ai rencontré quelques personnes. Quand je suis revenu, je me suis dit, mais ça n'a servi à rien, ce que j'ai fait, le temps que j'ai passé là-bas. Et puis, bah, c'est faux, évidemment, ça a mûri après. C'est-à-dire que j'ai rien écrit, en fait, sur place, j'ai presque rien écrit. Et puis c'est faux, voilà, ça mûrit, ça met beaucoup de temps à venir. Mais pour parler de ce livre précisément, le projet au départ était d'écrire sur les gens qui subissaient une guerre. Donc j'étais plutôt parti pour écrire juste le dedans. Et une fois qu'on est là-bas, sur place, une fois qu'on est dans Sarajevo, donc dans cette ville qui est une sorte de cuvette avec des collines tout autour, et qu'on réalise concrètement ce que ça pouvait être pendant ces 4 ou 5 années de guerre, de ce que ça pouvait être d'être encerclé par une armée qui tirait sur vous, ça m'a semblé moins intéressant de ne parler que des gens du dedans. Ça m'a semblé plus intéressant, plus risqué, plus exaltant, on va dire, pour l'écriture, d'essayer aussi d'être dehors et de raconter ce que les autres pouvaient ressentir, de tirer sur ces gens. Donc voilà, la construction du livre, elle s'est vraiment faite là-bas. Et puis voilà, j'avais une idée très, très minimale de la guerre, qui reste assez minimale parce que j'en ai pas vécu, fort heureusement. Mais on rencontre des gens qui ont subi ça, qui ont vécu ça, et donc les choses sont un peu plus concrètes quand même.
Donc là, effectivement, on circule bien du dehors au dedans. Il y a des longues plages qui sont vraiment à chaque fois sous cette appellation dehors dedans. Mais ça donne des choses terribles. On parlait de violence tout à l'heure d'une manière un peu générale comme ça. Là, on est vraiment plongé au sein de la violence et de la barbarie. Je dirais même pas quotidienne. Enfin, si, elle est quotidienne, mais... Elle n'est pas ordinaire, elle est banalisée en quelque sorte, plus qu'ordinaire. Et c'est assez terrible. Et quand on lit certains des textes, je pense aussi au dernier texte que tu nous as offert pour la revue de la Marelle, qui est un texte très dur, on est dans quelque chose de parfois difficilement supportable. Que tu évoques de manière très douce comme ça sur des travaux d'écriture, mais quand même c'est une plongée qui doit faire bouger des choses à l'intérieur même de l'individu auteur. Comment est-ce que c'est possible d'aller aussi loin dans l'écriture?
Je pense que quand on voilà, c'est une espèce de défi. C'est comme une espèce de défi, quoi. C'est de se dire voilà, je vais essayer de le faire et je vais y arriver. Mais c'est vrai que quand on essaye de se mettre à la place d'un sniper, voilà, les 5-6 pages qu'on écrit, elles sont... On a besoin de temps après pour s'en remettre un peu.
Est-ce que ça fait bouger des choses insoupçonnées en soi? C'est un peu une question
sans doute. Oui, sans doute, parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose d'un... Enfin, c'est bizarre à dire, oui, mais si, sans doute. Il y a quelque chose de... Dans l'idée d'écrire, dans l'idée que ce soit comme un métier d'écrire, je pense qu'il y a quelque chose d'assez jouissif d'écrire ça. Je ne sais pas si c'est le mot, mais quand on est arrivé au bout et qu'on a le sentiment que ça doit être assez proche de ce que ça doit être, quelqu'un qui tire sur des gens, il y a une espèce de satisfaction du travail bien fait. Oui.
Et ça, c'est un objectif, une préoccupation de se dire essayons d'être le plus près possible.
Ben, je pense que, par exemple, à Steinberg, je pense que je ne peux pas imaginer ce que c'est. C'est-à-dire, imaginer de tirer sur des gens qui sont devant moi, c'est une chose que je ne peux pas imaginer, même avec beaucoup d'imagination. Donc, c'est de s'approcher au plus proche, d'être le plus près de ce que ça peut être. Je ne peux pas l'imaginer, voilà. Mais c'est d'essayer d'être au plus proche de ça. Donc, c'est pareil, quand j'écris Le Bonheur, j'essaie d'imaginer ce que quelqu'un, voilà, qui est sur une barque entre les côtes du Sénégal et les Canaries et qui n'a jamais vu la mer et qui, à un moment donné, sans doute, le bateau chavire. J'essaie d'imaginer ce que c'est la peur à ce moment-là. Donc, est-ce que je suis tout à fait proche de ce que ça c'est réellement, ou en tout cas, est-ce que j'en donne l'impression? C'est ça que j'essaie de trouver, en tout cas. J'essaie de trouver l'endroit exact de ça, de la peur, de l'angoisse et de l'espoir, de tout ce qu'on a mis dedans.
Et alors, est-ce que du coup, l'univers du théâtre, du jeu, de la comédie, de la mise en scène, de la manière dont un acteur professionnellement peut arriver à recréer des émotions, des sentiments, la peur, la violence, etc. Est-ce que ça, cet univers-là, cette manière de voir travailler les comédiens, voir toi, si tu participes à la mise en scène ou si tu es présent au moment où tout ça se passe, est-ce que c'est aussi quelque chose qui te nourrit et qui te donne des indications pour l'écriture romanesque et pas uniquement théâtrale, puisque tout à l'heure tu as fait des nuances dans les deux, mais...
Je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ça, parce qu'en fait, pour dire les choses, j'écris plus de romans, en fait. Donc, ça fait longtemps que j'en ai pas écrit, et je ne suis pas tout à fait sûr d'en écrire d'autres, en fait. Donc, sans doute pour les raisons que je viens de dire, parce que c'était extrêmement violent de les écrire. Donc, sans doute pour ça, je ne suis pas sûr que j'en écrirai d'autres.
C'est un scoop aujourd'hui.
Enfin, en tout cas, c'est une interrogation, je ne suis pas tout à fait sûr de le faire. Il y a quelque chose dans l'écriture théâtrale, il y a quelque chose de sans doute de beaucoup plus léger, parce que je suis allé vers la comédie, parce que je vais vers quelque chose de cet endroit-là, qui fait que c'est l'endroit où maintenant je me sens le plus à l'aise, parce que je fais parler des personnages, parce que je travaille vraiment la langue, parce que c'est plus ça va, plus c'est de la musique pour moi, plus l'écriture est la matière première d'un texte. Et les sujets auxquels je me confronte dans l'écriture théâtrale ne sont pas forcément les plus simples et les plus... Ils sont un peu plus légers que les romans, mais ce n'est pas forcément des sujets forcément plus simples. Mais j'essaye de trouver une espèce de distance, une espèce de légèreté, même quand c'est un peu grave. Voilà, c'est un endroit que j'ai trouvé récemment dans le théâtre qui me plaît beaucoup. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai...
Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... J'ai relu des papiers, là, justement, à la sortie de tes premiers livres, donc de tes romans, qui soulignent vraiment le côté très sombre, très tragique, dramatique, dramatique au sens tragique, des sujets de tes romans. Et effectivement, quand on voit les pièces de théâtre, on a le sentiment qu'effectivement il y a quelque chose de plus léger, comme une libération aussi peut-être de cet aspect plus ludique, plus joyeux, plus maniant beaucoup plus l'humour, beaucoup plus des formes de phrases qui sont impertinentes ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui... Où tu trouves aussi ta place, peut-être là, avec une sorte de voix intérieure qui correspond plus à ce que tu es, que tu as réussi à créer une adéquation entre l'écriture, celle de la scène, et une manière d'entendre ta propre voix.
Oui, sans doute, puis je pense que l'écriture, elle évolue comme on évolue soi-même. Et donc, j'ai écrit pendant longtemps des choses assez sinistres, assez sombres. Et puis, et en même temps, je crois que je suis quelqu'un de plutôt assez marrant. Et donc, j'essaye de mettre ça au service de l'écriture, on va dire. Donc, j'écris toujours des choses. Flexible Hop Hop, c'est une pièce sur le
Ah oui, les sujets sont sérieux quand même. J'ai parlé du travail en ce moment, c'est assez tragique d'ailleurs.
Mais voilà, sur des gens qui sont licenciés, sur les entreprises qui ferment à tour de bras pour aller rouvrir quatre pays plus loin parce que c'est moins cher. Donc c'est pas forcément absolument à se taper le par terre. Mais j'essaie de trouver une façon de le raconter. J'essaie de travailler l'idée de la comédie pour que ce soit un peu léger, entre guillemets, et qu'on puisse rire de quelque chose, même si ce n'est pas forcément très drôle. Donc c'est ça qui, aujourd'hui, m'intéresse vraiment dans l'écriture.
Alors on peut découvrir ça aussi sur ces nouveaux espaces d'écriture et de lecture que sont les blogs, les pages Facebook, les sites internet, etc., que tu pratiques, et sur lesquels on peut aussi lire cette manière d'être, de regarder le monde avec beaucoup d'humour et de regard assez ironique, mais pas de l'ironie méchante sur la manière dont les choses se passent autour de toi. Il y a un autre mot qui est ironie, justement, qui rendrait plus compte de ça, que je ne trouve pas là. Mais ce rapport au monde, finalement, il est assez touchant. Et je trouve qu'il se ressent aussi dans une écriture qui, ça me fait penser à ce titre flexible, Hop Hop, enlevé et drôle, qui dit évidemment des choses pas drôles, mais c'est cette écriture qui elle-même est devenue, je trouve, de plus en plus virevoltante, sautante, qui se passe souvent de verbes, qui se passe souvent de mots, de liaisons entre les termes, et qui se permet beaucoup de choses, qui se permet d'éluder beaucoup de choses, mais qui par là, du coup, devient très, très pointue. Qui arrive directement au sujet. Il y a quelque chose d'assez frappant aussi dans la manière même d'écrire.
En fait, c'est un peu en... Je trouve que l'époque dans laquelle on vit, c'est une époque où on parle beaucoup, où on a une espèce de besoin d'expliquer tout, de tout raconter, pas seulement sur BFM TV, mais c'est un bon exemple, je trouve, de cette espèce de façon de toujours vouloir tout expliquer, tout raconter. Et j'aime bien écrire contre ça, en fait. J'aime bien la parole qui est un peu trouée, dans laquelle on ne dit pas tout, dans laquelle il faut aussi un peu imaginer de quoi on parle et aussi un peu deviner entre les phrases qui se racontent. Donc c'est une chose que j'aime bien travailler.
Les phrases qui ne sont pas terminées, par exemple.
Les phrases qui ne sont pas terminées, oui. Mais voilà, quand tu parles avec des gens de quelque chose... quelque chose en commun sur lequel on s'entend, on dit pas tous les mots, on dit pas toutes les choses, et c'est ça, c'est cette parole là, c'est ces paroles là que je peux entendre dans les cafés, dans les bus, dans les trains, c'est cette parole là qui m'intéresse de retrouver, quoi, en fait, dans l'écriture.
Alors c'est drôle parce qu'à la fois c'est quelque chose de très travaillé, ben, pour un écrivain évidemment,
bien sûr,
quelque chose de très calculé, et en même temps c'est une manière pour toi de te rapprocher au plus près de la parole non écrite, de communes, celles des gens dans la rue ou des cafés ou des conversations entre amis.
Je travaille vraiment sur l'oralité, même si c'est vraiment très écrit, même si c'est très travaillé, même si c'est retravaillé derrière, mais c'est ce qui me touche le plus, c'est la façon dont parlent les gens, c'est la façon dont les gens se racontent ou racontent des choses sans en avoir l'air. Je suis très attentif à ça, en fait, à la façon dont parlent les gens. Très souvent, j'ai l'impression d'être... J'ai l'air d'être quelqu'un très silencieux comme ça, parce que j'écoute beaucoup les gens et je suis toujours très attentif à ce qui se passe autour de moi. Et puis voilà, ça se ressort après dans les... Il faut se faire attention quand on mange à côté de moi ou quand on parle à côté de moi, parce que j'écoute beaucoup et je reprends les choses qui se retrouvent dans les textes ensuite.
Il faut qu'on signe un document pour t'autoriser à reprendre les propos. Mais alors revenons au théâtre, justement, avec cette oralité, c'est aussi finalement l'espace le plus adapté à cette manière d'avoir envie de capter les choses, parce qu'on est à nouveau, bien qu'écrit, dans l'oralité. Quand tu écris des pièces de théâtre, donc aujourd'hui tout ce que tu écris, est-ce que tu as vraiment en tête immédiatement la transmission physique, le fait que ça sera mis en voix, que ça sera porté par des êtres vivants sur scène?
En fait, je travaille vraiment sur le rythme, sur la musicalité des choses. Je travaille beaucoup à l'oreille. Je pense que c'est un peu infernal d'être à côté de moi quand j'écris, parce que je parle beaucoup. Par contre, par rapport à l'idée de la mise en scène, c'est pas une chose à laquelle je pense réellement. C'est pas, voilà, mon travail, c'est d'écrire. Donc je pense pas réellement.
Tu visualises pas forcément les personnages ou la
scène. C'est pas forcément ce à quoi je pense. Voilà, il y a une exception qui est une pièce très récente donc sur Elvis Presley, mais parce que je vais la mettre en scène, donc je l'ai écrite en y pensant déjà. Mais c'était un peu bizarre aussi justement parce que tout d'un coup ça m'obligeait à faire une chose que je n'avais pas, auquel je pensais pas avant. Mais en temps normal, je ne pense jamais à ce qui va se faire sur plateau. Et si c'est compliqué ou pas, ça, c'est pas mon problème. Le metteur en scène se débrouillera. Donc là, pour Elvis, c'était à peu près pareil. Je me disais, le metteur en scène va faire se débrouiller, sauf que c'est moi. Donc c'est plus compliqué. Mais...
Il faut que ce soit juste musicalement, avant de l'imaginer.
Voilà, c'est avant tout une question de rythmique, qu'on entende vraiment la langue, qu'on entende vraiment le rythme d'un texte. Et puisque tel ou tel personnage, selon ce qu'il est, selon l'histoire qu'il raconte, qu'il y ait une espèce de musique comme ça qui lui soit propre.
Tu as apporté un extrait que tu liras après l'émission ici au théâtre de Rouge, qui sera joué au théâtre de la Minoterie, Joliette Minoterie, en 2015. Mais on peut peut-être en écouter déjà un tout petit extrait pour nos auditeurs.
Je peux déjà dire un peu ce que c'est.
Dire ce que c'est, bien sûr.
Donc Rouge, c'est un texte que j'ai écrit pour une metteuse en scène qui s'appelle Mayotte Barthès, qui est une jeune fille, voilà, que j'aime beaucoup. Et on avait parlé depuis assez longtemps, on voulait travailler ensemble, et puis on a cherché un peu sur quoi on pourrait, voilà, sur quoi je pourrais écrire pour elle. Et j'avais envie depuis assez longtemps d'écrire sur le terrorisme. Je ne sais pas trop bien pourquoi, mais c'était ça qui m'intéressait justement. Disons que quand j'étais ado, j'avais une espèce de fascination pour la bande Abadère qui m'est restée assez longtemps. Et ça m'intriguait un peu, justement, cette fascination. Pourquoi est-ce que j'étais fasciné par des gens qui flinguaient d'autres gens, quand même ?
C'est quand même bizarre d'être fasciné par les snipers à Sarajevo, la bande Abadère. Méfiez-vous de cet individu.
Et donc, voilà. Et en même temps, il y a eu une période, à peu près au moment où, avec Mayotte, on commençait à se dire qu'on allait écrire, qu'on allait faire un spectacle ensemble. Il y avait encore Sarkozy. Et j'avais une grande question qui me venait assez régulièrement, c'est pourquoi est-ce que personne ne se levait pour, non pas pour flinguer Sarkozy, il ne faut pas exagérer, mais voilà, pour résister, il y avait une espèce de silence ambiant et d'absence de militantisme, tout ça qui me choquait un peu. Et donc j'ai essayé d'imaginer, d'écrire à partir de la bande Abadère, non pas sur la bande Abadère, parce que c'est il y a longtemps, et puis que ça raconte une autre histoire, une autre période, mais de vraiment trouver une espèce d'équivalence, je pense pas que ce soit possible, mais on sait jamais, une espèce d'équivalence comme ça de révolte un peu sourde comme ça aujourd'hui. Donc j'ai créé cette bande qui s'appelle Rouge, qui a un peu la même structure que la bande Abadère, c'est-à-dire un type avec plein de filles autour, en gros, ce qui est quand même une chose assez étrange aussi. Voilà, qui vont essayer de résister à la société dans laquelle on vit, en particulier à une chose permanente qui est l'argent, qui est vraiment une chose qui m'insupporte, l'argent tel qu'il est, la valeur que c'est devenu dans notre société. Donc ils essayent de résister à la société avec une espèce de violence, mais qui est assez joyeuse et assez un peu différente, puisque l'idée de départ, la première action qu'ils font pendant assez longtemps, c'est en fait de balancer de la peinture dans les distributeurs, dans les DAB, en fait, dans les distributeurs de banques, essayer de couper le système monétaire en mettant de la peinture rouge dedans. Donc c'est assez crétin, mais peut-être que ça mettrait un peu le bordel. Voilà. Donc c'est ça l'histoire de Rouge principalement, sachant qu'au bout d'un moment, ce type qui dirige la bande, petit à petit, tend à la lutte armée, tend à commencer à flinguer des gens. Je ne sais pas, Pierre Gattaz, par exemple, au hasard. Et ce n'est pas forcément l'idée générale de la bande, ce n'était pas forcément ça auquel ils avaient pensé. Jusque-là, c'était assez marrant de bomber des dabs, mais ensuite, ça, c'est un peu moins drôle, donc la bande se dissout à la fin. Voilà, c'est ça l'histoire de Rouge.
Alors, un extrait que tu nous lis.
Donc, je vais vous lire un des premiers... monologue du leader, donc de ce leader, qui s'appelle Lionel, mais qui se fera appeler Johnny ensuite, parce que c'est quand même beaucoup plus chic. Au début, voilà, on est à la fac. Au début, on étudie, on réfléchit, on progresse. Mais bon, assez vite, quelque chose nous déplaît dans ce qu'on nous propose, dans l'avenir qu'on nous dessine, dans ces trucs-là de réussite, de vie active, de oui, se vendre, savoir se vendre, gagner, négocier, être un battant, tous ces trucs-là, gagnant, perdant, battant. Ça me met hors de moi, ça m'insupporte, je ne peux plus. Je ne peux plus, là, écouter la radio, regarder la télé, parcourir les journaux, la colère que ça me met, la rage que ça fait peu à peu, assez vite. Comment ça m'insupporte, l'envie de tout péter, casser, que ça donne, que ça produit, toutes les choses-là, de la finance qui domine, qui dirige, dont ne sait où, tire, oui, les ficelles, permet ci, refuse ça, empêche ceci, cela, parce que non, pas rentable, pas assez, non, oui, rentable. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça nous rapporte? C'est rien, c'est libre, aucun intérêt, alors non. Ça me fout la haine. Je ne sais pas. Je ne peux plus, là, l'argent. Penser, toujours l'argent. Courir après, toujours chercher, bien obligé, vivre avec ça. La peur du vide, la peur du bout, la peur de rien, plus rien, terminé. Bien obligé pour tout, oui, vivre, survivre, manger, dormir, rester propre, humain, présentable, faire partie des autres, je ne sais pas. Respirer simplement et puis circuler, être. Sans ça, qu'est-ce que tu fais? Comment tu existes? Est-ce que même tu existes? Et même si tu ne veux pas, même si tu voudrais, je ne sais pas, ne pas en être, ne pas, non, participer, te mettre sur la touche, refuser de ce jeu-là, à ce jeu-là jouer, est-ce que tu peux? Impossible, pris au piège, ils te tiennent par les... Oui. L'argent toujours, l'argent, courir après toujours, chercher bien obligé, vivre avec ça, la peur du vide, la peur du bout, la peur de rien, plus rien, terminé. À quoi donc ça me servirait le luxe? Quand tu vois tous ces types, tous ces gens qui paradent, qui pavadent, qui peu à peu le magot accumule, et ça pourquoi? Qui claque le blé, qui compte, rien, ça coule à flot, tout est possible, mais tout c'est quoi? Que ça partout, tout le temps, je ne peux plus. Combien ça gagne, la réussite, le résultat, les chiffres, les zéros qui derrière se multiplient, oh là là, je ne peux plus. Colère, oui. Enragé, je crois, je vais finir. L'envie que j'ai sans relâche de sortir, tout péter, casser, foutre en l'air, et puis oui, les envies de meurtre, rouge, tu vois. Colère blanche, sourde, qui fait oui, voire rouge. Et je peux vous lire le début, en fait, quand ils réfléchissent à bomber les DAB. Donc c'est une réunion, en fait, entre plusieurs personnages, et ils vont définir ce que... Ils vont trouver le nom rouge. Donc il y a lui, Lionel, il y a une autre fille qui s'appelle Colère, et une autre fille, en fait, qui s'appelle Clou. Lui. On peut faire silence, là, on peut écouter Colère, sinon, bon, c'est pas la peine, là, de réunir le comité, si. Colère. Ce que j'ai dit, moi, c'est ça. Faut pas se cacher, faut pas se fondre dans la masse. Ça que je crois. Au contraire, faut se faire voir. Trouver un signe fort, un sigle, je ne sais pas, quelque chose qu'on sache de suite que c'est nous. Je ne sais pas. Par exemple, la peinture, là, sur la façade, tous les trucs, là, écrits, c'est quoi? Bombé, peinturluré? Lui. Alors là, pas idée. Quelqu'un sait? D'où ça sort? D'où ça vient? Clou. Ces machins, là. Le Michel que t'as lourdé l'autre jour. Lui qui avait ça, je crois bien. Une bombe ou quoi, avec lui? Colère. C'est ça le truc. Rouge. Voilà. Tout en rouge. Tout. Se faire voir rouge, signer rouge, écrire rouge, voir rouge. C'est ça, je crois. Lui. Se nommer rouge. Colère. Voilà. Tout à fait. Rouge. Pourquoi rouge? Je ne sais pas. C'est bien, non, rouge? Ça sonne, quoi. Lui. Et puis bon, le rouge, oui. Tu sais bien, le sang, la colère, la révolte. Noir, ça pourrait être, non? Oui, mais non. Rouge, c'est bien. Rouge, oui, on le sait, c'est la foule, la colère, la révolte, le sang des camarades, des réprimés, des coups de feu, de la troupe là qui charge, qui dans le sang contient. Rouge, ce sont les drapeaux qui silencieux protestent. Rouge, c'est le peuple. Rouge, c'est dire non, être ensemble, unis, forts. Rouge de colère. Rouge, oui, on se souvient des manifs, des révoltes, la colère contenue, longtemps contenue, qui peu à peu gronde, enfle, et puis explose rouge à ta gueule. Soulèvement, affrontement, bain de sang. Oui, rouge, c'est le sang de vos têtes ensanglantées au bout de nos pics. Vous en souvenez-vous? Commune, communisme, rouge, rouge, rouge. Rouge face au brun. Rouge pour faire pâlir le bleu. Rouge pour faire mordre la poussière au jaune, briseur de grève, c'est lâche. Un autre, Serge. Rouge, c'est le feu, c'est le sang et puis l'amour aussi. Le cœur qui bat fort quand c'est qu'on est, oui, amoureux. Oui, mais non. Ça, non. L'amour, non. On n'est pas là pour ça, non plus. Hein? Rouge, voilà. C'est le feu, c'est le sang, d'accord. Disons comme ça, oui. Rouge.
Pas d'amour avec le rouge.
la révolte, juste. On entend bien la manière dont les voix sont hachées, coupées, à ta lecture aussi, la manière dont tu lis cette espèce aussi de surgissement de la parole. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui s'emballe. Et qui est frappant dans tes textes, en tout cas de théâtre, quelque chose qui dépasse en quelque sorte le sens même qui s'auto-alimente.
Ben oui, c'est vraiment l'écriture qui donne le mouvement, qui fait l'accélération, qui fait le suspens, qui fait les ralentissements, les silences. Il y a beaucoup de silences aussi dedans.
Et là, c'est la sirène des bateaux qui ne nous donne pas le signal du départ, mais on s'approche quand même un petit peu de la fin de la rencontre. Terminer, justement, peut-être nous dire un mot un peu plus précis sur ton projet de résidence à Marseille, le fait que tu aies eu envie de monter ici, poursuivre plus exactement une réflexion sur justement cette question et de la violence urbaine et des mouvements et des migrations, mais peut-être aussi en explorant d'autres voies. Tu peux nous en dire un petit peu quelques mots?
Donc en fait, je suis venu avec un projet ici à Marseille, à la Friche, et je repars avec deux projets, donc voilà.
Jusqu'ici, tout va bien.
Le premier projet, en fait, c'est de poursuivre le travail que j'ai fait sur le bonheur, ce livre sur les migrants, ce roman sur les migrants. J'avais l'envie depuis assez longtemps de poursuivre ça, d'essayer de trouver une autre façon de le raconter, de poursuivre, parce que c'est vrai que les livres, sur des sujets comme ça, que ce soit pour la guerre ou que ce soit pour les migrants, ça s'arrête jamais, quoi. En fait, on n'est pas, on l'a dit tout à l'heure, on sort pas indemne de ça. Et puis c'est pas, je suis toujours très attentif à ça. C'est une chose qui me touche toujours beaucoup. Les migrants, j'ai toujours une oreille à Lampedusa. Enfin, c'est une chose qui me, voilà. Je crois que j'ai pas encore fini d'écrire là-dessus. Donc je suis venu pour ça ici, pour rencontrer des gens qui travaillent avec des migrants, pour être dans une ville où, comme ça, de mouvement, de circulation, qui a une longue tradition de gens qui viennent d'ailleurs, qui s'installent, qui ont construit cette ville, je crois. Donc j'ai commencé à écrire beaucoup par rapport à ça. J'ai rencontré pas mal de gens. J'ai pas fini, il y a encore d'autres gens. Voilà. Et puis, je travaille sur un autre projet. Donc, un projet avec un photographe qui s'appelle Franck Pourcel, qui est par là.
Voilà, qui est avec nous dans la salle aujourd'hui.
C'était bien parce que c'est un projet que j'avais depuis très longtemps, toujours dans le mouvement, en fait, je suis toujours dedans, qui est une chose sur laquelle j'ai envie d'écrire depuis très longtemps, qui est sur les gens qui travaillent sur les cargos, en fait, qui est une chose qui me fascine beaucoup, en fait, de ces gens qui sont loin de chez eux pendant des mois et des mois, qui soient philippins ou ukrainiens ou je ne sais quoi d'autre. Qui travaillent sur les cargos, sur les pétroliers. Et donc, ça fait assez longtemps que j'ai envie d'écrire là-dessus. Sans doute un jour de circuler sur un cargo, sur un pétrolier, de faire quelques kilomètres avec beaucoup de S derrière, à travers le monde pour voir un peu ce que c'est. Et donc avec Franck, on a commencé à travailler sur le port, à Fos-sur-Mer et ici. On a commencé à rencontrer des gens dans les foyers, en fait, puisqu'il y a des escales, en fait, ces cargos, tous ces bateaux font des escales ici, parfois de quelques heures, parfois un peu plus longues, et dans quelques lieux, comme ça, dans des foyers qui sont tenus soit par l'église, souvent, soit par des associations d'anciens marins. Mais en fait, ils descendent pendant ces quelques escales où on vient les chercher, et c'est une espèce de temps comme ça à terre, qui est surtout un temps de communication avec leur famille très loin, de l'autre côté de la planète, un temps internet ou carte téléphonique. Donc on a commencé à rencontrer des gens, des marins comme ça qui étaient en escale, et on va continuer à le faire un petit moment pour faire c'est un projet qu'on a ensemble, voilà.
Des gens qui s'arrêtent à un moment ou qui s'arrêtent parfois très longtemps quand il y a des compagnies maritimes,
ouais,
qui font faillite,
des bateaux abandonnés,
ou des bateaux abandonnés par les armateurs.
Ouais, tout à fait,
quelle forme ça pourrait prendre, ça? C'est, du coup, c'est ni de l'écriture théâtrale ni un roman.
C'est plutôt un travail en commun entre le photographe et l'écriture, enfin entre la photographie et l'écriture. Donc
une forme inventée.
Un endroit qu'on va trouver, ouais.
Quelque chose de
polyphonique aussi là, du
exactement,
coup, dans l'écriture. Oui. Ben, je voudrais te remercier, Emmanuel, dire quelques mots de remerciement aussi à ceux qui nous accueillent ici, Rebecca Pied-Noir, Pierrette Monticelli, au théâtre Joliette Minotry, dans cette belle bibliothèque de théâtre contemporain avec tous ces livres qui sont dans nos dos, qui sont tout blancs, mais parce que, en fait, ils sont emballés, mais à l'intérieur, ils sont tout colorés. Christian à la technique au théâtre, Sébastien Gély à la technique à Radio Grenouille. Je voudrais remercier Julie et Samia de la Compagnie des rêves urbains qui ont fait cet itinéraire avec nous aujourd'hui et avec les chantiers d'Euroméditerranée. À la Marelle, remercier Laetitia et Fanny et Sophie qui étaient en stage et qui a accompagné aussi cette rencontre. Mathieu Rochelle, OCG Les Bouches-du-Rhône qui finance cette résidence puisque c'est aussi une résidence qui a fait partie du dispositif d'aide du département qui nous permet aussi de t'accueillir ces mois-ci. Merci beaucoup Emmanuel Darlet, merci à tous.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia me acerco al agua bebiendo tu beso.